Emmanuel Poisson, bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'avoir accepté cet entretien donc, pour l'INALCO. Emmanuel Poisson, vous êtes professeur des universités à l'Université Paris-Cité, directeur adjoint de l'IFRAE. Vous travaillez notamment sur les domaines de l'histoire de la bureaucratie impériale au Vietnam et des savoirs lettrés. Et vous êtes également traducteur littéraire. On peut même rajouter que vous êtes co-directeur de la collection Asie en perspective chez Hémisphère Éditions. Donc, je suis contente de pouvoir vous faire un entretien de nouveau avec vous. On s'était vu en 2014 dans le cadre des archives audiovisuelles de la recherche de l'ESCOM. Et à cette époque, c'était l'année France-Vietnam, et on avait eu la grande joie de pouvoir enregistrer un entretien avec vous et Dinh Trong Nguyen sur l'exposition en fait Hanoï en couleur, et donc cet enregistrement est en ligne et je crois que maintenant avec l'INALCO on a aussi toute une politique d'archivage des documents de travail de Dinh Trong Nguyen. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler?
Oui, donc Dinh Trong Nguyen est un ethnobotaniste, ethnologue d'origine vietnamienne qui a fait carrière au CNRS. Et Hio, en fait, et moi avons un certain nombre d'intérêts communs touchant au savoir, donc à l'anthropologie gestuelle des artisans vietnamiens. Des intérêts aussi pour les sources iconographiques vietnamiennes, ce qui nous a conduit effectivement en 2014 à concevoir une exposition de 60 autochromes issus des archives de la planète, lesquels avaient été créés, comme vous le savez sans doute, par Albert Kahn au début du XXe siècle. L'autochrome est un des ancêtres de la photographie couleur et nous les avions en fait présentés en rétroéclairage dans le cadre d'une exposition itinérante, présentée dans un premier temps à la Cité Université Internationale, pardon, et dans un deuxième temps à Hanoï.
Et il y a eu un bel ouvrage qui a été réalisé par la suite.
Tout à fait. Oui.
Et maintenant, les archives particulières de...
Alors, Dinh Trong Nguyen a fait don à l'INALCO, pour faire simple, de ses travaux donc audiovisuels, donc une collection de photographies, de diapositives, de films, d'enregistrements audiovisuels, donc fruit d'un terrain de plus de près de 20 ans au Vietnam, au nord du Vietnam en particulier. Et donc avec Peter Stöckinger et Sarah Cadorel, nous avons conçu un programme de numérisation, constitution de légendes, de commentaires et de mise en ligne en fait, de ces sources qui sont extrêmement précieuses et qui ont été au fondement de la recherche et de l'enseignement de Dinh Trong Nguyen et qui était en fait, parallèlement à ses recherches au CNRS, chargé de cours à l'Université Paris 7, l'ancêtre de Paris Cité. Voilà, donc c'est une source qui intéresse l'anthropologie religieuse, l'anthropologie en général, aussi la botanique, mais l'histoire intellectuelle du Vietnam. Le fond de Hio comporte un certain nombre d'entretiens qu'il a été l'un des seuls à réaliser avec de grandes figures de la littérature vietnamienne, et, bon, de la dissidence aussi. Certains de ses poètes étaient des dissidents vietnamiens dans les années 50 au nord. Donc une source vraiment d'une richesse exceptionnelle. Voilà, je suis très heureux de travailler avec l'équipe qui était dirigée par Peter et qui continue à faire de très belles choses. Ouais.
Voilà, et donc la numérisation est en cours.
Oui.
Une partie, je pense, des documents vont être déposés sur Nacala et sur Médial. Et ensuite, un dossier spécifique sur cette archive sera présenté sur la plateforme La Case, donc la nouvelle plateforme de l'INALCO.
Tout à fait.
Donc, on attend avec impatience. Voilà. Mais c'est un long travail, je crois. Il y a énormément de documents.
C'est ça, ouais. C'est ça. C'est l'équipe mène ce travail et va enchaîner avec un autre projet dans le droit fil du premier, qui est la mise en ligne d'une partie du fonds photographique de Nicolas Cornet. Nicolas Cornet, qui est un des grands photographes français sur le Vietnam contemporain et qui a fait don aussi d'une partie de son fonds. Et donc l'intérêt sera de pouvoir mettre en regard les photos de Nicolas, qui sont plus récentes que celles de Hyo, photos d'un même site, par exemple, d'un même temple bouddhique ou d'un même lieu en général. Et c'est un très très...
Commentaires, étudier les différences entre voilà. les deux photos, etc. Mmh. Ça, c'est très intéressant. C'est un peu pour ça, en fait. Je pense que la plateforme aussi, la case a été montée. C'est pour pouvoir travailler sur les documents directement et ensuite pouvoir créer comme ça des dossiers thématiques spécifiques sur un sujet et pouvoir donner une certaine forme, on va dire, de vulgarisation pour au moins faire connaître toutes ces archives qui, sinon, seraient restées dans une boîte au fond d'une cave.
C'est cela, oui.
Pour terminer, vous avez fait aussi un très bel ouvrage sur le bambou.
Oui.
Avec
Dinh Chow Hyo, oui, qui est une approche interdisciplinaire du bambou, donc anthropologique, ethnologique et historienne, en fait. Donc, j'ai rassemblé un très grand nombre de sources anciennes. Les plus anciennes remontent au IVe siècle. Donc des sources scripturaires, mais également iconographiques, relativement anciennes, sur le bambou. Hyo avait pris un grand nombre de photos et réalisé un certain nombre de films sur la taille du bambou, ses usages. Nous avons en fait rassemblé nos sources pour bâtir un ouvrage qui se veut non pas encyclopédique, mais qui s'appuie en fait sur une très grande, très large palette en fait de sources, donc scripturaires, iconographiques. Et notre approche en fait est technologique. Nous sommes partis en fait des parties du bambou, des termes qu'on retrouve dans les dictionnaires les plus anciens du Vietnam, et pour étudier en fait les différents usages de ces parties du bambou. Et ces usages dans des domaines très variés, donc artisanaux, agricoles, l'hydraulique, la construction de digues. En fait, les bambous étaient utilisés comme pour armer les digues dans l'ancien Vietnam. Les usages militaires également, que faisaient les anciens Vietnamiens du bambou. Voilà.
On va complètement... partir loin du bambou et de l'ethno-botanique, et on va se recentrer sur la guerre au Vietnam, et tout particulièrement sur quelqu'un que vous avez bien connu, Jean-Michel Krivine,
oui.
Et sur lequel vous travaillez
oui.
en ce moment.
Tout à fait. Enfin, plus exactement, je ne travaille plus sur lui, mais j'ai contribué, enfin, je suis à l'origine de la publication des carnets de Jean-Michel Krivine, des carnets qu'il a écrits au cours de ses missions successives au Vietnam. Jean-Michel est devenu un ami grâce à des amis communs, des amis deux médecins de Hanoï que j'avais connus lors de mon premier séjour au Vietnam en 1988-1989, qui étaient tous les deux donc praticien à l'hôpital germano-vietnamien Bệnh viện Việt Đức, donc Nguyễn Văn Vân et son fils Nguyễn Anh Tuấn, qui tous les deux étaient chirurgiens spécialisés en chirurgie hépatique, chirurgie du foie. Et ils ont très tôt noué des relations d'amitié, des relations professionnelles avec Jean-Michel. Alors Jean-Michel Krivine donc est né en 1932, décédé en 2013. Il a été chirurgien, mais également militant d'extrême gauche, militant trotskiste. Donc, il a fait œuvre au Vietnam lors de ses missions de médecin, d'enquêteur médical, mais il a également fait un travail de type politique. Il est issu donc d'une famille juive, lorraine par sa mère et ukrainienne par son père. Et il est le second d'une famille de cinq garçons. Donc certains de ses frères ont été ingénieurs, d'autres cadres commerciaux. L'un était physicien. Alain, le plus connu, Alain Krivine, donc, a fondé la Ligue communiste révolutionnaire, l'un des grands mouvements trotskistes français. Et il a aussi pour cousin, il a pour cousin Emmanuel Krivine, chef d'orchestre, et Jean-Louis Krivine, qui est un mathématicien de renom. Alors quelques éléments de biographie. Donc il a été élève au lycée Condorcet. Et pendant la guerre, du fait des persécutions antisémites, en particulier à Paris, il a fui la capitale en fait pour se réfugier à Toulouse en 1943. Il a, comme ses frères, l'ensemble de sa famille survécu à la persécution, aux rafles. Et très tôt, il s'est engagé à gauche, à l'extrême gauche. Il a fait partie des jeunesses socialistes après-guerre. Puis, en 1949-1950, il a fondé une cellule clandestine du Parti communiste français au sein du lycée Condorcet. Mais c'est de la guerre d'Algérie que date, où il a fait son service militaire, que date son engagement trotskiste. Il est devenu donc en 1956 membre de la 4e internationale et il a été membre de la Ligue communiste révolutionnaire et plus tard du nouveau parti anticapitaliste. Très tôt, il a été donc sensible aux souffrances en fait des peuples, en particulier algériens et vietnamiens, lors de ces guerres d'indépendance. Et il a adhéré, il est devenu en fait l'un des membres de ce qu'on appelait le tribunal Russell-Sartre, qui était un tribunal d'opinion qui avait été créé par Russell. Ce logicien bien connu est Jean-Paul Sartre, pour dénoncer en fait la politique américaine au Vietnam. Ce tribunal donc comportait plusieurs commissions, une commission juridique, mais également une commission de médecins, commission médicale, dont faisaient partie Jean-Michel Krivine et Marcel Francis Kahn, qui était un autre médecin, est parti, donc Marcel Francis Kahn, dans un premier temps avec Gisèle Halimi, en début 1967, à Hanoï, où ils ont rencontré Ho Chi Minh. Et cette première mission a été suivie par une seconde, formée toujours de Marcel Francis Kahn, Jean-Michel Krivine et Roger Pic. Roger Pic, qui était un documentariste, un cinéaste, également très engagé. Alors les missions en fait, la première mission de Krivine est contemporaine en fait d'une mobilisation très forte en Europe et plus particulièrement en France pour le Vietnam face aux États-Unis. En octobre 1966, par exemple, avait été créée à Paris une association intitulée 1 milliard pour le Vietnam, dont le but était de collecter des fonds donc avant le 31 décembre 1966 au profit de la Croix-Rouge nord-vietnamienne. C'est un organisme qui a été fondé par, non pas des anonymes, mais des gens peu connus, mais qui était parrainé par des leaders syndicaux, des membres de partis politiques comme le PSU, ou d'anciens résistants gaullistes de gauche comme Emmanuel Dacier de la Vigerie. Quel était le moyen, quel était l'outil en fait, de cette association? Eh bien, le versement volontaire d'une partie de leur salaire par les membres, donc au profit de la Croix-Rouge nord-vietnamienne. En novembre de la même année, un comité national Vietnam est créé, donc qui fait suite aux 6 heures pour le Vietnam, qui était une manifestation qui avait eu lieu à la Mutualité. Donc là, un comité national Vietnam très clairement orienté contre l'intervention américaine et ses moyens extrêmement violents sur lesquels nous reviendrons. Comité présidé par Laurent Schwartz, grande figure des mathématiques en France, mais aussi de la lutte contre la torture pendant la guerre d'Algérie, aux côtés de Pierre Vidal-Naquet, autre intellectuel, donc helléniste, professeur à l'université Paris 7. Donc Vidal-Naquet a fait aussi partie de cette association. Sartre en était membre, Yankelevitch, mais également des physiciens, physiciens comme Alfred Kastler, et les médecins comme Krivine, Jean-Michel, Abraham Béard et Marcel Francis Kahn. La conséquence, enfin, donc, bon, je reviendrai sur la mission proprement dite de Krivine, mais ce qu'il faut d'emblée souligner, c'est qu'elle s'est traduite en 1967, en juin 67, à son retour, par la création d'une association médicale franco-vietnamienne qui était chargée en fait de remettre, d'éditer des listes de médicaments et de matériel demandés par les Vietnamiens et d'expédier en retour le matériel et les médicaments au Vietnam. Donc le contexte de la guerre, c'est celui d'une escalade, de ce qu'on a appelé l'escalade, c'est-à-dire des bombardements accrus par l'aviation nord-américaine du Nord-Vietnam, et pas simplement Hanoï, mais des villes de la moyenne région, mais également du centre du Vietnam. Donc bombardement, donc à partir en particulier de porte-avions de la 7e flotte américaine qui était au large des côtes vietnamiennes. Donc cette première mission, on peut l'intituler, enfin, à la suite de Jean-Michel Krivine, de Hanoï au 17e parallèle, 17e parallèle qui, je le rappelle, était la ligne de démarcation entre Nord et Sud Vietnam.
Voilà, qui avait été établi en fait aux accords de Genève,
En
1954.
En 1954, tout à fait, tout à fait.
Et qui devait amener à la réunification du Vietnam 2 ans plus tard.
Ans plus tard, à la suite d'élections, mais ces élections.
Mais les élections n'ont pas eu lieu, bien sûr. Et, ouais. Et les Américains, de toute façon, n'avaient pas intérêt en fait de cette réunification.
Ni les Américains, ni ni les Nord-Vietnamiens, je parle des dirigeants, même si une fraction des dirigeants vietnamiens au plus haut niveau était favorable à une solution négociée. Mais celle-ci, précisément, a été, la fraction dite révisionniste a été écartée et persécutée, même au sein du parti, à partir des années de 1967, au même moment.
C'est ça, au même moment. Voilà.
Ouais. Voilà, donc quand Krivine arrive à Hanoï, donc en février 1967, il rencontre rapidement le colonel Milam, bon, qui était à la tête d'une commission sur les crimes de guerre, et il définit avec lui son programme. Ils constatent tous les deux que jusqu'ici, le travail en fait, du tribunal de Russell avait péché par sa généralité. Donc, ce que propose Krivine, c'est d'étudier deux questions précises d'un point de vue scientifique, celui des bombes à billes, les effets des bombes à billes et des brûlures au napalm. Alors, le programme est double. Donc, c'est d'abord un séjour à Hanoï aux alentours, et puis une descente au 17e parallèle, une descente clandestine. Donc, il faut imaginer les risques pris par Krivine, en fait. Donc, une descente sous les bombardements, avec des déplacements pour l'essentiel de nuit, et sous l'œil en fait, d'avions de reconnaissance qui, en permanence, survolait le Nord-Vietnam et, avec une grande précision, orientait les tirs de la 7e flotte. Et donc, il le dit lui-même qu'à plusieurs reprises, en fait, ils ont été la cible de bombardements ou de tirs de la part des Américains. Voilà. Donc, à Hanoï, Krivine rencontre Phan Ngoc Thach, qui est le ministre de la Santé de l'époque, Et les discussions tournent à la fois sur la situation politique en France et son lien avec la guerre du Vietnam, et sur les questions médicales. Et Pham Ngoc Thach, en fait, est très, très direct avec Krivine et s'en prend à la politique du PCF, du Parti communiste français, qu'il trouve beaucoup trop proche, en fait, des États-Unis. Pham Ngoc Thach, donc, s'étonne du fait que les communistes français du PCF soient proches de François Mitterrand, qui est favorable à l'OTAN, et surtout que le PCF, en fait, milite pour la paix au Vietnam. La paix au Vietnam, alors que ce qui conviendrait aux yeux des Vietnamiens, c'est un mouvement qui s'affiche clairement pour la victoire nord-vietnamienne au Vietnam. Ce qui était d'ailleurs la thèse de Madeleine Riffaut. Madeleine Riffaut, qui, comme vous le savez peut-être, était très engagée, était venue au Vietnam en 1966, était une grande figure de l'opposition en Europe à cette intervention américaine. S'agissant de l'aide médicale, donc, Pham Ngoc Thach estime et dit à Krivine que le Nord n'a pas tant besoin de médicaments, il se débrouille. Alors, qu'entendre par ce terme se débrouiller, eh bien, les médecins vietnamiens utilisent ce qu'on appelle le subtilis, qui est une substance qui permet les traitements de la tuberculose, des brûlures, des diarrhées, et qu'il conjugue avec la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle. En revanche, comme le souligne Pham Ngoc Thach, il y a une véritable pénurie d'instruments et de produits pour la recherche, de colorants en particulier, de produits pour rechercher ce qu'on appelle en médecine des catécholamines, qui jouent le rôle d'hormones ou de neurotransmetteurs, mais également pénurie d'appareils. Son ministère se propose de faire pour Krivine une liste également de produits de première urgence pour les maquis communistes ou pro-communistes du Sud-Vietnam, donc petites trousses de petite chirurgie, quinine également, quinine en poudre, plus utile que la nivaquine, hein, comme le souligne Thach, qui est, elle, se heurte la résistance des germes du paludisme. Voilà, donc, et surtout, Pham Ngoc Thach, le ministre, donne à Krivine, ce qui est essentiel, une liste de médecins, de ses amis français, qui sont des relais très importants pour susciter l'aide médicale du Vietnam. Donc, toute une liste de médecins et de chercheurs que je cite, comme Bernard, Azera, Le Brigand, Denis Brille, Théo, qui est le doyen de la faculté de médecine de Bordeaux, Grabar et Alpern, donc un grand chercheur du temps. Voilà. Passé cet entretien, Krivine fait une visite à Hanoï et sa banlieue pour évaluer l'impact des premiers bombardements, des bombardements de 1966, dans un village en particulier, le village de Phu Thượng, dans le district de Thi Liem. Constate la présence de débris de bombes explosives, vous voyez, de 3000 livres, de bombes à souffle, de bombes mères à billes, et constate également la destruction d'écoles maternelles ou d'écoles de syndicats dans des villages à proximité. Il profite en fait d'un exposé qu'on lui fait sur les armes américaines et en particulier le napalm. Il découvre, il va par la suite vraiment en faire l'éloge, le caractère tout à fait complémentaire mais très précieux de la médecine traditionnelle vietnamienne qui répond à cette pénurie de médicaments occidentaux qu'il a souligné. L'utilisation, par exemple, pour le traitement de brûlures au napalm, de peau de grenouille comme hétérogreffe. On lui donne également à voir un très large échantillage de bombes américaines. Et en fait, son témoignage, comme ceux de Roger Pic et d'autres, quelques autres, est fondamental. Je pense aussi à Kramer, sur lequel, Elisabeth, tu reviendras peut-être. Tous ces témoignages donc, de visu, donc, écrits ou filmés, s'inscrivent en porte-à-faux, prennent le contre-pied en fait, de la propagande officielle américaine qui niait en fait, en permanence, la destruction par l'aviation américaine d'hôpitaux, d'écoles, de dispensaires. Alors, ces carnets sont vraiment précieux sur ce plan, car ils documentent, ils informent avec une très grande précision dans le temps, dans les lieux, de la destruction systématique de l'infrastructure médicale, scolaire également. Voilà, donc ça c'est un... Alors, pour revenir à cet échantillage de bombes, il peut constater lui-même l'utilisation de bombes à retardement, vous voyez, qui produisent en fait des cratères de 4 à 5 mètres de profondeur et de 16 à 18 mètres de diamètre, vous voyez, c'est considérable, de bombes de 500 à 1000 livres, hein, à 3000 livres, pardon, avec des cratères de 8 à 10 mètres, vous voyez, et de profondeur et pratiquement de 30 mètres de diamètre, c'est considérable. Et découverte aussi de vestiges de têtes de missiles qui ont été utilisés contre des quartiers populaires à Nam Dinh, qui est une grande ville du sud-est du Nord-Vietnam, de roquettes dirigées, non dirigées, mais également, ce qui est le plus nouveau, et ça il le documente par écrit, mais également par des photos, l'usage de bombes à billes. Bombes à billes de deux types. Les bombes à ailette ananas, de la taille d'une canette de bière, et qui, dans leur paroi, contiennent 300 billes d'acier. Donc la bombe à billes, la bombe mère va éclater et va libérer ces billes d'acier et qui vont en fait perforer les corps. Hein. Ce sont des bombes antipersonnelles qui sont extrêmement meurtrières et qui, même si elles ne provoquent pas la mort, provoquent des blessures extrêmement douloureuses et très difficiles à traiter. Deuxième type de bombes à billes, les bombes goyaves. Donc elles aussi sont contenues dans des bombes mères contenant 640 goyaves. Voilà. Alors, dès son séjour à Hanoï, Krivin est familiarisé par les médecins vietnamiens et les cadres sanitaires avec cette médecine traditionnelle. J'y reviens parce qu'il insiste beaucoup sur cet aspect dans ses carnets. Il lui est donné, par exemple, de visiter l'Institut de médecine traditionnelle à Hanoï et il découvre la pluralité des traitements proposés par cet institut. Traitement, par exemple, des hémorroïdes avec une poudre nécrosante, traitement des plaies des parties molles avec des plantes, mais aussi des fractures et certaines séquelles d'encéphalite des enfants. Ayant quitté Hanoï, il est orienté plus au nord, à Thái Nguyên, donc dans la moyenne région, vers la frontière chinoise, et pour y visiter ce qu'il subsiste, c'est-à-dire pratiquement rien, d'un grand hôpital de zone qui était l'hôpital du Viet Bac, donc à Thái Nguyên, et dont le dépôt pharmaceutique a été entièrement détruit à l'aide de bombes explosives. Il aussi discute sans concession avec les thérapeutes, des médecins et des aides-soignants et des infirmiers et infirmières de cet hôpital ou de ce qu'il en reste, et il pointe des erreurs thérapeutiques. Donc, tout en étant très enthousiaste pour cette lutte de libération du Vietnam, et donc par son engagement aussi trotskiste, Krivin reste très exigeant sur le plan scientifique et donc a un travail vraiment, je dirais, en toute vérité avec les médecins et les agents sanitaires vietnamiens. Cette visite à Thái Nguyên est suivie par cette descente proprement dite jusqu'au 17e parallèle. Donc, il va traverser dans un premier temps la province de Hà Tĩnh, qui est au sud du delta du fleuve Rouge. Il visite en fait l'hôpital de district, puis il entre dans l'hôpital provincial et il constate, en discutant avec les praticiens ou les survivants, parce que le personnel de manière générale, et suite à ce qu'il voit, il constate que cet hôpital provincial du Hà Tĩnh a été bombardé à 18 reprises, et c'est dire pour lui l'acharnement des pilotes vietnamiens contre un hôpital contre cette infrastructure en fait médicale. Donc un hôpital qui était très moderne, très bien équipé, qui avait été créé, enfin construit en 1961 et qui comptait 300 lits. Le 7 mars 1967, un peu plus au sud, il est de passage à Quang Binh, donc plus au sud. Et là encore, l'hôpital a été rasé, en fait. Il ne reste plus que des débris de la salle d'opération, de la maternité. Et il peut prélever, et il fera analyser en France, des extraits de plaques de napalm, dont étaient revêtues des briques du bâtiment et une partie de la toiture. Donc là encore, il documente l'usage du napalm contre un établissement médical. Donc, voilà. Il découvre aussi dans les décombres de cet hôpital des billes, de bombes à billes, des débris de roquettes, un cratère de bombes de une tonne, donc les plus grosses bombes américaines. Voilà. Et là encore, il constate que en fait, cet hôpital a été vraiment l'objet d'un acharnement particulier, enfin un acharnement, mais qu'il retrouvera dans d'autres institutions hospitalières de la part de l'aviation américaine. À proximité de Quang Binh, donc dans la commune de Ngo Thuy, il visite une infirmerie communale et il prend connaissance des traitements utilisés pour les brûlés au napalm, gardénal, antalgique, antibiotique, complété par la médecine traditionnelle, c'est-à-dire que la brûlure est nettoyée avec une décoction de feuilles de bétel. La feuille de bétel, qui, comme on le sait, réchauffe la plaie et a des qualités antiseptiques reconnues par la médecine traditionnelle. Le personnel de ce dispensaire de commune est formé d'un médecin auxiliaire, d'un infirmier, d'une infirmière, d'une sage-femme et d'une pharmacienne. Là encore, il documente la situation. À l'hôpital provincial de Quang Binh, il a des contacts avec les brûlés. Il peut discuter donc avec des femmes et des hommes brûlés au phosphore, brûlés au napalm et au phosphore, ou d'une femme qui vient d'être opérée de plaie intestinale par bombe à billes. Il remarque que la volonté des Vietnamiens, malgré les bombardements, de maintenir en l'état ou de reconstruire des salles d'opération, salles de réanimation. Et l'ingéniosité des Vietnamiens le frappe encore une fois, car il constate que la salle d'opération, qui est souterraine, est éclairée par une dynamo de vélo, qui est actionnée par une infirmière. Et il est tout à fait épaté, je reprends son terme, par la puissance de l'éclairage. À la fin de son séjour, il est de retour donc, à Hanoï. Il rencontre des prisonniers américains, pilotes, mais il n'est pas complètement dupe des propos tenus. Et il a aussi une rencontre très importante de son point de vue avec le Ho Chi Minh et le Premier ministre Pham Van Dong. Pham Van Dong, avant le ministre de la Santé, avant de partir, lui dit « Chez nous, l'arrière est solide, mais pas chez les Américains. » Or, comme le dit Staline, je reprends les termes, c'est l'arrière qui décide de tout. Voilà, tels sont à grands traits donc les caractéristiques en fait, de sa première mission, qui va être complétée donc, à la fin de la même année, en septembre, par une nouvelle mission, mais dans les maquis communistes ou pro-communistes du Sud-Vietnam. Voilà. Donc, une deuxième mission qui va durer 15 jours. Et là, il n'est plus seul. Il n'est plus le seul Français. Il est en binôme avec, du point de vue médical, avec Marcel Franciscan. Et ils sont accompagnés de Roger Pic, qui a réalisé le film Malgré l'escalade, qui est aussi très engagé. Et ils sont là pour, là encore, mesurer l'impact de l'intervention militaire américaine, des bombardements en particulier, multiformes, mais également pour dresser un portrait de l'organisation des services de santé des maquisards communistes, pro-communistes au Sud-Vietnam. Alors, dès septembre 1967, dès le 15 septembre, Krivine rencontre en fait le représentant à Phnom Penh du FNL, le Front National de Libération, hein, donc au Cambodge, Monsieur Hieu, et qui lui fait part en fait des souhaits du FNL, la Kinin avant tout, Kinin dont cette dans le FNL a déjà reçu 20 kilos. Il est très reconnaissant à la France de ce point de vue-là, enfin, à ces groupes d'aide au Vietnam. Et 400 kilos de quinine en poudre sont également prévus, comme lui dit, vont être acheminés, lui dit Krivine, ce dont le FNL se réjouit. Mais il souhaiterait que cette poudre de quinine soit vérifiée pour éviter que des trafics n'aient été opérés au cours de l'acheminement. De même que donc les Vietnamiens sont très vigilants, que les dates des médicaments, des antibiotiques, soient vérifiées, car ils ont constaté que certains médicaments offerts étaient périmés. Voilà. Alors, Krivine et Khan et Pic vont pénétrer dans la province de Tay Ninh, qui est une province du sud-ouest du Sud-Vietnam, qui est adossée au Cambodge. Et ils ont des contacts avec des médecins qui, sur place, vont faire état d'autres besoins, comme le glucose en poudre, le chlorhydrate de quinine et des extraits de foie lyophilisé. Dès les débuts de la mission, on leur présente la formation des médecins, des aides médicaux et des infirmiers et infirmières, ces modalités. C'est-à-dire la faculté de médecine de la forêt, je reprends les termes. Elle forme des médecins militaires, mais elle forme aussi, à l'époque où ils font la mission, 275 médecins auxiliaires par an, sur 3 ans, et 90 docteurs en médecine. Ils ont aussi l'occasion d'écouter des rapports très détaillés sur en fait, les souffrances des villageois et des districts de cette province, le compte des ratissages, des bombardements d'artillerie, un bilan également sur 17 provinces de l'utilisation de produits toxiques et de bombes à billes. Ils ont l'occasion aussi de rencontrer des paysans et des paysannes qui ont été victimes de tortures, qui décrivent les sévices subis et qui systématiquement rapportent lors de la séance de torture, des séances de torture, de la présence d'un conseiller américain. Ça, c'est un témoignage qui est unanime de la part des victimes. Voilà, donc il prend aussi, la mesure en fait, des effets de cette guerre chimique. Donc il constate que des villageois sont en proie à des vomissements, des maux de tête, des vertiges, car la guerre chimique prend la forme, bien entendu, de défoliants, le fameux agent orange, mais d'autres utilisations de gaz en particulier à grande échelle. Donc c'est une guerre chimique qui est multiforme, qui est bien loin de se limiter aux défoliants. Voilà. Alors, si les Vietnamiens ont mis longtemps à accepter que cette mission ait lieu, c'est qu'en fait, la protection des missionnaires, entre guillemets, européens, est beaucoup plus difficile à assurer qu'au nord, à nord. De ce fait, très vite, même si les risques d'être fait prisonnier lors des ratissages sont minimes, des consignes sont données à Krivine et à Marcel Francis Khan. Ils vont également, lors de cette mission, visiter les permanences de dispensaires, de districts, et pouvoir en fait faire état d'utilisation de différents matériaux, d'équipements, stéthoscope, Fleischer. Voilà. Alors, il décrit en fait cet organisme comme une permanence pour les premiers soins, hein, le dispensaire de district. Le personnel est composé d'infirmières, 4 infirmières, d'un médecin auxiliaire et de 3 aides infirmier dont la formation est élémentaire. Et c'est à ce niveau que sont opérés, peut opérer un premier tri. C'est-à-dire, sont donnés les soins de première urgence, mais si les cas sont plus graves, les victimes, les malades, sont envoyés vers l'hôpital de district. Les médicaments employés sont formés de pénicilline, de calcium, streptomycine, novocaïne, sérum salé, sérum glucosé, strychnine, vitamine C, subtilis, seringue. Le médecin vient tous les 5 jours, mais pour avoir un chirurgien, eh bien, on doit aller à l'hôpital provincial. L'idéal, en fait, l'idée de base, néanmoins, est de traiter les problèmes de santé autant que faire se peut, de façon très décentralisée. Et tout ce qui peut être traité sur le plan le plus local possible, le plan donc villageois ou de district, doit l'être. En fait. Les organisations de base doivent se suffire, pour reprendre les termes de Krivine. L'infirmière dans le village est le dernier agent ayant droit de faire des vaccinations. Donc, un agent sanitaire, donc la base, peut faire des prescriptions sous la direction de l'infirmière. Et cette infirmière, qui elle-même était formée, peut former des agents sanitaires de hameau. Quant à elle, ces infirmières et ces infirmiers, ils sont formés au niveau provincial. Un dentiste, au niveau provincial, fait des tournées. Il en va de même des sages-femmes. Alors, le manque de médicaments contre le paludisme conduit à réserver en fait ce traitement, ces médicaments, aux cadres. Alors, s'agissant des cadres, Krivine est en bon trotskiste, ne manque pas de repérer en fait les privilèges et leur expression. C'est-à-dire la bureaucratie bénéficie, communiste bénéficie de certains avantages. C'est le cas en particulier d'enfants de cadres qui sont plutôt mieux nourris, mieux habillés et en meilleure santé que les enfants des paysans, ce que reconnaît à voix basse un cadre du FNL. Alors ça, c'est un point qui ne manque pas de souligner. Alors, à l'occasion de la visite d'un hôpital de zone, Krivine est vraiment fasciné par cette capacité des Vietnamiens de marier les moyens de fortune à des appareils scientifiques modernes. Et par exemple, pour la fabrication de vaccins, parce que les vaccins sont fabriqués en fait sur place, vaccins antivarioliques, anticholériques, mais également anatoxines tétaniques. Et donc, il observe le minutieux contrôle avant la circulation de ces vaccins. Et le processus de fabrication lui est présenté. Donc, il voit des laborantines donc au cœur de la forêt dotées de microscopes binoculaires très perfectionnés, mais également un four Pasteur qui a été construit dans une thermitière. Une thermitière où la température peut s'élever à 180 degrés. De même, le filtre où passe l'anatoxine tétanique provient d'une enveloppe de bombe au napalm. Récupération systématique. L'appareil de distillation de l'eau a pour ancêtre un chasseur-bombardier qui a été abattu. Un chasseur-bombardier américain, cela va sans dire. L'étuve elle-même est maintenue exactement à 37 degrés par 6 petites lampes à pétrole dans des douilles d'obus américains de 40 mm. Et les animaux d'expérience sont des rats de la forêt. Donc, vous voyez, tout cela corrobore en fait ce que disait Pham Ngoc Thach lors de la première mission de Krivine. En fait, c'est qu'il y a un souhait et une pratique en fait de la recherche et qui se traduit par la fabrication de vaccins, donc au sein du maquis, sur place directement. Et 80% de la population des zones libérées est vaccinée contre la variole et le choléra. Et Krivine apprend également que des médecins ou des infirmiers, infirmières, quittent les zones libérées pour des zones non libérées pour vacciner les paysans, de nuit en général. Il est très admiratif pour le travail aussi des médecins auxiliaires. dans la façon dont ils examinent les malades sur le plan clinique. Ils citent l'exemple de Madame Sun, qui est une médecin auxiliaire qui a 34 ans et qui ausculte, percute et palpe très bien, à son dire. Elle a terminé ses études de médecin auxiliaire en 1964. Auparavant, elle était secouriste et infirmière. Et elle espère devenir docteur en médecine plus tard. Et elle passe une semaine dans chaque hameau avec un jour spécial pour les consultations. Donc, dans chaque hameau sont opérés les vaccins contre le choléra, la variole et la poliomyélite. Les maladies les plus courantes étant toutefois le paludisme et les troubles intestinaux. Krivine, et là encore, on peut être impressionné, teste lui-même l'effet partiel de produits chimiques. Il est par exemple mis en présence d'un fût de poudre de produits chimiques qui a été au préalable mitraillé par les Américains pour que la poudre puisse se diffuser. Et très rapidement, donc il prend en fait un échantillon de cette poudre, il la place à proximité de son visage, et très rapidement il constate que les yeux lui piquent, qu'il est vraiment très très gêné, qu'il a en fait des épanchements du nez également, alors, ce qui laisse préjuger des effets pour les gens dont la respiration est prolongée, pour ces effets, ces produits. Donc un tableau très précis, c'est un des grands enseignements de ce carnet, un tableau très précis de l'organisation, mais également des pratiques de cette médecine de base dans les zones de maquis communistes au Sud-Vietnam, mais également un tableau de l'éducation politique. Krivine interroge les modalités, enfin ses compagnons vietnamiens sur les modalités de formation politique. Alors on lui répond qu'on inculque aux jeunes l'esprit de libération nationale, l'esprit de classe, l'esprit révolutionnaire, que les jeunes paysans sont pour la plupart, sont tous alphabétisés même, et que l'une des motivations pour l'alphabétisation et le suivi de cette éducation politique est que la famille de ces combattants bénéficiera en premier lieu de la réforme agraire, c'est-à-dire de dons de terres. Cette dimension politique, elle lui tenait à cœur, elle lui a jusqu'à sa mort en 2013 tenu à cœur. Il était l'unique militant français du groupe trotskiste vietnamien en France. Alors, il y a là, pour ceux qui connaissent bien l'histoire du mouvement trotskiste, un paradoxe, mais un paradoxe qui est apparent. Comment un trotskiste, une des figures du mouvement trotskiste, une figure majeure du mouvement trotskiste en France, a été autorisé à venir et travailler au Vietnam quand on connaît le sort que les communistes vietnamiens ont réservé en 1945 aux communistes, aux trotskistes vietnamiens à Saigon, au sud, où ils ont été physiquement éliminés. Et je dirais que c'est le pragmatisme des élites vietnamiennes, pragmatisme des élites vietnamiennes, qui est, comme on a pu le pressentir, on peut le pressentir à la lecture des carnets, sont très informés en fait de l'attitude du PCF, une attitude finalement qui les déçoit terriblement, une attitude qui est une attitude suiviste, mais qui il n'y a pas véritablement de solidarité du PCF. Le PCF en fait milite pour la paix, mais ne fait rien, sauf exception peut-être le Secours populaire ponctuellement qui livre des ambulances. Mais le PCF, en fait, se désintéresse de cette action sur le terrain, une action concrète, fourniture de médicaments, de matériel médical, pour la recherche, mais aussi les opérations. Et d'où l'appel, en fait, à des militants donc, qui sont solidaires de cette lutte du Vietnam pour l'indépendance, du Nord-Vietnam pour l'indépendance,
tout en étant trotskiste, en fait. Bon, voilà.
Il fera donc un troisième séjour en juin 1975, enfin un autre séjour, un nouveau séjour en juin 1975, un autre en 82-83, 1982-1983, et un dernier en 86-87. Alors pourquoi ces séjours répétés au-delà de l'indépendance ? Eh bien parce que Krivin est avec plusieurs médecins vietnamiens, dont Ton Thet Tung en particulier, de l'hôpital germano-vietnamien, est à l'origine de la coopération médicale franco-vietnamienne. Donc cette coopération franco-médicale, c'est une idée de la base elle-même. Ce n'est pas une initiative ministérielle. C'est une initiative de praticiens dont l'idée en fait, a germé dès les années 60-70. En fait, et qui va prendre forme après 1975 par l'accueil dans plusieurs hôpitaux français, et en particulier la clinique d'Aubonne, dont Krivin était chef de service en chirurgie, l'accueil de FFI, faisant fonction d'interne, de stagiaire vietnamien, jeune. Voilà, et c'est la raison pour laquelle donc des missions croisées ont eu lieu jusqu'au milieu des années 80, en fait. Ton Thet Tung lui-même, qui est une grande figure de la médecine hépatique, en fait, c'est un chirurgien qui a mis au point une méthode d'exérèse du foie qui lui a valu l'ironie des médecins français à l'époque coloniale et qui s'est avérée extrêmement précieuse pendant les guerres, la guerre contre les Français puis la guerre contre les Américains. Ton Thet Tung, donc, qui était un membre de la famille impériale, hein, qui avait rejoint le Viet Minh par patriotisme, qui est resté au Vietnam et qui est l'un des pères en fait, de la médecine moderne au Vietnam, grand ami de Krivin.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà donc, de ce témoignage écrit, carnet de mission au Vietnam de Jean-Michel Krivin, on a également des témoignages visuels, et notamment quelques documentaires très, très intéressants qui ont été faits par des grands réalisateurs ou documentaristes, dont, pour citer les principaux, 17e parallèle, donc de Evans et Loridan, Loin du Vietnam, qui est un documentaire co-réalisé par Evans, Varda, Lelouch, Klein, Maker, René, donc vraiment toute une jolie brochette de réalisateurs qui ont été sur place. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément et qui, maintenant, on peut consulter ces documentaires sur Internet. Et évidemment, le documentaire dont vous avez parlé au début, de Roger Pic, le « Malgré l'escalade ».
Voilà. Et puis, il faut y ajouter aussi...
Oui, voilà. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est le « People's War » de Kramer.
Oui.
Et ce qui aurait été... C'est vrai, hein, bon, on ne peut pas visualiser maintenant, visionner les documentaires. Ce qui aurait été intéressant, c'est de pouvoir mettre un petit peu en regard les deux visions.
Voilà, tout à fait.
Puisque Kramer était un Américain.
Alors, donc, Robert Kramer est un militant d'extrême-gauche, qui très tôt, avec d'autres journalistes, des intellectuels, des documentaristes, a créé en fait Newsreel, qui se voulait une alternative à la parole officielle américaine dans les médias. Et donc en 1967, il est descendu comme Krivin sur la piste Ho Chi Minh, en fait. Et il a, comme lui, en fait, documenté la destruction en fait, systématique de l'infrastructure médicale, donc de villages, de districts, de provinces, par l'aviation américaine et les canons de la 7e flotte. En fait. Donc il y a là vraiment un parallèle tout à fait intéressant. En fait. Il y a, chez Kramer, en fait, au fondement de son engagement, son milieu familial, le père de Kramer, qui était un Américain d'origine allemande, juive allemande, est le premier médecin américain à avoir mis les pieds à Hiroshima.
Donc, ce qui explique en fait l'antimilitarisme vraiment charnel, français, fondamental de son fils et son engagement ultérieur.
Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça nous donne vraiment beaucoup de matériaux sur lesquels travailler maintenant. Vous-même, vous avez passé beaucoup de temps au Vietnam.
Oui, tout à fait.
Et alors, à quelle occasion vous avez rencontré Jean-Michel Krivine? Vous l'avez rencontré au Vietnam ou vous l'avez rencontré en France?
Je l'ai rencontré en France, bien longtemps après mon premier séjour au Vietnam. J'ai fait un premier séjour en 1988-1989 comme volontaire du service national actif, c'est-à-dire coopérant. Et à cette époque, donc, j'étais à Hanoï et j'enseignais le français à l'école polytechnique d'Hanoï et à l'hôpital Việt Đức, c'est-à-dire germano-allemand. Et c'est durant cette période que j'avais sympathisé avec le professeur Vân A, qui était un des plus grands chirurgiens hépatiques, comme Ton Tuk du Vietnam, et son fils, Nguyen Anh Tuấn, lesquels étaient très proches en fait de Krivine. Et avant de nous séparer, Nguyen Anh le fils du professeur Vân A, m'avait vraiment encouragé à rencontrer Jean-Michel. Et Jean-Michel, la première fois que nous nous sommes rencontrés, était bien sûr très ému de renouer avec ce passé qui représente en fait un moment très fort de sa vie, de son engagement. Et il avait en fait rédigé ses carnets à visée familiale. À aucun moment il n'avait songé à les publier. Et il estimait, à l'époque où je l'ai rencontré, qu'elle n'intéresserait qu'un public très restreint. Donc, je m'étais employé à le convaincre du contraire, et je lui ai fait rencontrer en fait Frédéric Mancienne, le directeur des Indes savantes, et qui a publié en fait ce texte que voici, donc Carnet de mission au Vietnam 1967-1987. La couverture est très parlante, on y voit de jeunes enfants qui bénéficient en fait d'une protection en paille de riz tressée contre les bombes à billes. Donc le vêtement lui-même et le casque. Voilà, une sorte d'armure. Oui.
Alors c'est très intéressant parce que ce livre est aussi comporte énormément d'images, enfin oui. De photos.
Tout à fait.
De reproductions de photos, plus exactement.
Tout à fait, qui vraiment porte le témoignage des effets sur les corps du napalm, des effets aussi des bombes à billes, des bombes goyaves, des photographies elles-mêmes de ces bombes, de ces fragments de bombes, témoignage aussi de la destruction quasi complète d'hôpitaux ou de dispensaires, de la présence en fait de napalm sur certaines ruines de bâtiments, d'hôpitaux. On le voit là pour l'hôpital de Vinh Linh. Voilà. Vous voyez donc blessure par bombe à billes, donc ces effets extrêmement délétères pour les corps. L'utilisation de bombes au phosphore aussi. On parle du napalm, mais les brûlures au phosphore étaient extrêmement nombreuses. Il est paru donc en 2005. Il est paru en 2005. Vous pourrez aussi y découvrir des photographies de Krivine. Voilà. Donc ça, c'est à la clinique d'Aubonne. Krivine et le professeur Vân A, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ton Tuấn Tùng, dont j'ai également parlé, grand spécialiste de chirurgie hépatique. Voilà. Et voilà. Donc l'équipe de la clinique d'Aubonne. Voilà. Et donc Krivine lui-même, dans les zones les zones de résistance du communiste du Sud Vietnam. Kevin, d'ailleurs, qui je saisis l'occasion pour commenter cette photo, Kevin qui a fait l'éloge dans ses carnets de la tenue de ceux que les Américains et les Sud-Vietnamiens anticommunistes appelaient les Vietcong, c'est-à-dire c'est un terme générique qui Vietcong, c'est le diminutif, l'abréviation de Vietcong, ça, de communistes vietnamiens, mais qui désignait en fait l'ensemble des gens qui étaient en opposition au régime successif, donc pro-américain. Donc cette tenue, elle est extrêmement légère, extrêmement ample, et il ne manque pas de la mettre en regard avec l'uniforme des GI américains, qui était tout à fait inadapté au climat, à l'humidité, au sangsu, aux pluies, parce qu'en fait, vous voyez, chaque cadre militant, combattant, médecin avait 3 ou 5 tenues qu'il changeait systématiquement lors des pauses. Et à cette occasion, il pouvait facilement identifier, repérer les sangsues et s'en débarrasser. Voilà, donc c'est cette dimension technique. Là, il est aux côtés de la femme de Nguyen Van Choi, qui est un militant communiste qui a été fusillé par la police sud-vietnamienne et qui avait témoigné auprès de lui. Voilà.
Voilà. Donc voilà, beaucoup de photos voilà. Qui illustrent voilà. les propos voilà. Donc là, du carnet.
Là, on le voit. Alors, c'est lui qui a pris la photo. On voit Ho Chi Minh, Phan Van Dong. Et la famille, en fait, une partie de la famille de Pham Ngoc Thach, en fait. Oui, c'est ça. Donc, Ho Chi Minh est assis au centre de la photo. La photo qui porte sa signature, Bac Ho, en vietnamien, Bac Ho, il signifie l'oncle Ho. Donc, c'est cette photographie réalisée par Kevin, dédicacée par Ho Chi Minh, au côté duquel on voit donc Phan Van Dong, le premier ministre, et les enfants de Pham Ngoc Thach, le ministre de la Santé, donc Colette et Alain Thach.
Voilà. Donc, vraiment beaucoup d'illustrations.
Beaucoup d'illustrations.
Historiques.
Voilà, tout à fait.
Très intéressant pour,
oui.
pour étudier le... Pour,
voilà,
le,
tout à fait.
Voilà, pour réétudier l'époque.
Et alors, en annexe, on trouve... certains articles de Krivin qu'il a donc sous le pseudonyme de Louis Couturier propose une critique anti-bureaucratique. Donc il fait en fait allusion à une lettre ouverte d'une des figures du Parti communiste vietnamien, Nguyen Khac Vien, qui en fait dans le droit fil de la critique trotskiste en juin 1981. Avait adressé donc à l'Assemblée nationale un texte extrêmement critique sur ces dérives bureaucratiques, donc la routine, l'autoritarisme, etc., l'incompétence de nombre de cadres.